France Musique.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, cinquième épisode, Ulysse. À l'été 1924, Stravinsky et sa famille se sont installés à Nice, Villa des Roses, au Mont Boron, où ils vont rester 6 ans. Est-ce un hasard? C'est durant cette période qu'Igor va donner ses œuvres les plus méditerranéennes. Édipe Roy, Apollon Musagète, la symphonie de psaumes et Perséphone. Des regards par-dessus la Méditerranée et son histoire, au milieu de tournées incessantes. Pour notre cinquième épisode, voici donc notre Igor en Ulysse moderne, homme de la perpétuelle errance. Pour dire à quel point Stravinsky aime les déplacements, fin 1925, il passe son permis de conduire et devient membre de l'Automobile Club de Nice. Après une Hotchkiss, il aura une Citroën. La première fois qu'il la conduit, il prend d'ailleurs une contravention après s'être garé devant une boutique Hermès, où il était allé acheter une cravate. C'est que le goût du luxe ne le quitte pas, le goût de l'argent non plus, qui détermine toujours plus ses choix artistiques. Ça ne l'empêche pas d'entretenir une religiosité sincère, presque farouche. Bientôt, il reviendra à la religion orthodoxe. Il écrit même ce Paternoster pour en témoigner.
Oh.
Lettré, Stravinsky l'est jusque dans sa pratique de la religion. Il lit Thomas d'Aquin, Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse et entretient une amitié avec le néo-thomiste Jacques Maritain. Mais il a aussi la foi du charbonnier. Septembre 1925, alors qu'il doit jouer sa sonate au Festival de Venise, l'un de ses doigts s'est infecté. Il passe la veille du concert à prier dans une église. Le lendemain, en se mettant au piano, il retire son pansement et devant l'assistance médusée, constate que son doigt s'est guéri miraculeusement. C'est lui qui souligne, avec le plus grand sérieux. À propos, Arnold Schoenberg est présent à ce festival vénitien et s'irrite du succès qu'y rencontre Stravinsky. Ce n'est pas qu'une question d'ego. Igor lui apparaît comme un faiseur qui passe son temps à ressasser le passé, tandis que lui milite pour une modernité active, radicale, sans retour. Schoenberg écrit dans la foulée ses satires, dont l'une dit « Mais qui tambourine ainsi ?» C'est le petit Modernski. Oh, quelle fière allure il a, avec ses vrais faux cheveux comme une perruque. Tout à fait Papa Bac. Schoenberg ne s'en tient pas là. En juillet 1926, il publie un texte « Stravinsky, le restaurateur ». L'œuvre de Stravinsky ne durera pas plus qu'un sac d'emballage. Son art est celui des tissus à la mode et des cravates. Allusion perfide au goût d'Igor pour ses ornements. Ce dernier répond par voie de presse en raillant une esthétique schoenbergienne fabriquée, je cite, « comme une préparation chimique ». Au-delà de la passe d'armes entre deux rivaux, s'impose un nouveau clivage dans le monde musical, une opposition esthétique et éthique entre deux modernités, dont l'une, celle de Stravinsky, consiste à regarder toujours plus loin vers le passé.
Oh.
En Italie est venue à Stravinsky l'idée d'une pièce qui, pour toucher au sublime, emprunterait un langage spécial. Une langue, je cite, « non pas morte, mais pétrifiée, monumentale et immunisée contre toute civilisation ». Il s'adresse à Jean Cocteau, qui témoigne ici.
Il m'avait beaucoup étonné en me disant « je voudrais un oratorio en latin ». Je lui dis « pourquoi ?» puisque c'est un drame grec. Il m'avait dit « parce que je trouve que le latin est une langue commode pour les chanteurs, c'est une langue d'église, c'est une espèce de grand oratorio, et nous n'aurons pas l'ennui des traductions. Nous aurons une langue que peut-être le public ne comprendra pas, mais qui n'a pas besoin de comprendre, puisque c'est une base, et qui sera plus commode à chanter pour les acteurs que si chaque fois ils chantent en anglais, en russe, en espagnol. » Et évidemment, ça a stupéfait un public qui était habitué à la foire de Nijni Novgorod, des ballets russes. Ce public a vu des dames et des messieurs en noir sur une estrade et qui commençaient à chanter en latin. Évidemment, le public a fait une drôle de tête.
Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ils fréquentent les mêmes cercles artistiques et mondains. Le poète, qui depuis des années pressait Igor de collaborer avec lui, saute sur l'occasion. On s'entend rapidement sur Édipe Roi, de Sophocle, mais le compositeur est intraitable. Il exige de Cocteau qu'il retravaille, élague un texte vidé de toute éloquence, je cite, « comme une nature morte ». Il veut du sacré et de l'universel. Une scène immobile où s'expriment moins des individus qu'un destin. Le poète réécrit, docile, et puis confie le texte à Jean Danielou pour la traduction latine. Parallèlement, Cocteau et Stravinsky vont courtiser la princesse de Polignac pour qu'elle finance le projet, jouant habilement d'ailleurs de sa rivalité avec Coco Chanel. On serpente auprès des mécènes, mais on rêve pour la scène de Marmoréen. Igor précise encore, les personnages doivent avoir l'air de statues vivantes. Après tout, la mode est au mythologique. En ces années 20, même Picasso surfe sur le néo-antique. Il faut aller vite car Stravinsky veut faire une surprise à Diaghilev pour le 20e anniversaire des ballets russes. Un cadeau macabre, jugera d'ailleurs le grand organisateur, il n'y a même pas de ballet. Achevé en mars 1927, Édipe Ousrec s'est donné en avant-première dans l'hôtel particulier de Winareta, princesse de Polignac, avenue Henri Martin, le 29 mai. C'est l'événement mondain de l'année. Stravinsky accompagne les chanteurs et le chœur, Prokofiev donne un coup de main sur un second piano. Ce dernier commentera d'un ton railleur, le librettiste est français, le texte latin, le sujet grec, la musique anglo-allemande, la représentation sera donnée à Monaco, payée par de l'argent américain, c'est effectivement le comble de l'internationalisme. Bon, Igor dira bien de son ami qu'il écrit, je cite, « de la musique de gendarme ». C'est un prêté pour un rendu. Thank you. La vraie création, c'est pour le lendemain, 30 mai 1927, au théâtre Sarah Bernhardt, sous la direction du compositeur, avec Pierre Brasseur en récitant. Réception à peine polie, il est vrai que l'œuvre a de quoi décontenancer. Eddy Pousserex quittera l'affiche après seulement 3 représentations. Igor, comme souvent, imputera l'échec du spectacle au librettiste. Son ami Cocteau ne lui en voudra pas trop, mais ils ne se fréquenteront pas durant quelques temps. Igor glissera cette critique discrète mais assassine. Cocteau sait tout, il comprend tout à fond, plus qu'il ne faut. Mais il est trop subtil pour être grand. Le final d'Édipus Rex d'Igor Stravinsky par Esa-Pekka Salonen et l'orchestre de la radio suédoise.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
En cette année 1927 où Stravinsky fête ses 45 ans, deux mots sur ses petites manies. Méticuleux, Igor a une sorte de registre commercial où il inscrit chaque jour ce qu'il vient de composer. C'est ainsi que l'on connaît la date précise d'achèvement de ses œuvres. Il note aussi scrupuleusement tous les médicaments qu'il prend. Il y en a, car il est du genre à fréquenter beaucoup les médecins, mais aussi des homéopathes et guérisseurs, parfois pour de bonnes raisons. En tout très organisé, il partage soigneusement son temps entre la vie de famille et ses escapades amoureuses avec sa maîtresse, Vera, escapades gastronomiques et touristiques, car Igor adore bien manger et visiter des monuments. La vie de famille, c'est son fils Théodore qui en parle le mieux.
Le matin, s'enferme dans son cabinet de travail et il ne faut surtout pas faire le moins de bruit dans la maison. Difficile de ce point de vue-là, mais absolument adorable comme père de famille. Par exemple, les soirées étaient délicieuses avec lui. Souvent, il orchestrait. Alors quand il orchestrait, il aimait beaucoup être entouré. Il fallait qu'on soit là, lui faire de la lecture, par exemple. Il adorait ça. Alors, combien de livres n'ai-je pas lu avec lui, en lui lisant, n'est-ce pas, pendant les soirées, absolument pendant qu'il orchestrait. Et, il l'écoutait très attentivement, il l'orchestrait librement, tout à fait comme ça. Et le matin, c'était la composition. Porte fermée, porte close, etc. Le moindre bruit était pour lui quelque chose de terrible. Alors, il fallait que tout soit fermé. C'était toujours un grand problème avec mon frère pianiste. Il fallait deux pianos dans une maison. Il fallait toujours un très grand appartement pour que deux personnes puissent jouer du piano sans s'entendre.
Dans l'organisation domestique, la mère d'Igor est centrale. Nadia Boulanger se souvient.
J'ai bien connu sa charmante vieille maman, qui était un peu étonnée d'avoir un fils si différent de ce qu'elle était elle-même. Mais de voir Stravinsky devant sa mère, c'est une des choses les plus émouvantes que je puisse imaginer. Debout, les talons joints, avec le bruit caractéristique, pac, et ça claquait. Et si elle n'offrait pas de s'asseoir, il restait debout. Mais il avait 55 ans, il était une gloire dans le monde entier. Mais il restait debout devant sa mère, comme ses fils restent debout devant lui.
C'était la tradition russe ou...
C'est la tradition russe et la tradition d'eux-mêmes.
Octobre 1927, à Paris, on inaugure une nouvelle salle de concert, la salle Pleyel. Pour marquer le coup, on a invité les deux grands compositeurs du moment. Maurice Ravel dirige la valse, Stravinsky, l'oiseau de feu. Les deux anciens amis ne se parlent presque plus. Peut-être Igor a-t-il pris ombrage de l'aura grandissante du français. « La musique de Ravel ne m'intéresse pas », a-t-il fait savoir. Ce sont pourtant deux obsédés d'artisanat. Manifestement, ça ne suffit pas. We'll be right back. côté des brouilles, il y a aussi des rencontres. Ainsi, 2 ans plus tôt, Igor a fait la connaissance d'un jeune danseur et chorégraphe géorgien, profondément musicien, engagé par Diaghilev, Georges Balanchine. 22 ans les séparent, mais ils ont le même goût de l'épure et de la ligne, le même refus du pittoresque, une identique tendance à l'abstraction. Alors qu'avec Diaghilev, tout est toujours éruptif, avec Balanchine, Igor trouve un collaborateur prêt à traduire sa musique en résonance esthétique et humaine totale. Ce sera l'une de ses rares amitiés sincères et sans nuages. Leur premier travail en commun est le génial Apollon Musagète.
Thank you.
Fin 1927, une riche mécène de Washington, Elizabeth Sprague Coolidge, lui a passé commande d'un ballet d'une demi-heure pour formation réduite. Proposition ouverte, de quoi plaire à Igor, qui saisit la balle au bond pour proposer un épisode de la mythologie grecque, la naissance du dieu Apollon et son enseignement aux muses. Apollon est un ballet froid, un ballet blanc, comme l'exprime Igor, sur une musique diatonique, comme une ascèse néoclassique. Les cordes seules, mais expurgées de tout romantisme, avec une écriture stricte à six voix. À propos de voix, l'auteur nous dit qu'Apollon est aussi un essai sur la versification française, particulièrement le vers racinien. C'est Phèdre qu'il faut entendre dessous Apollon. Achevée en janvier 28, la chorégraphie de Balanchine écrit d'abord à Washington, Stravinsky n'ayant pas fait le voyage transatlantique, il n'y assiste pas. Il a en revanche obtenu de disposer gratuitement de la partition pour l'Europe et pour Diaghilev, qui, toujours jaloux, éreinte la généreuse mécène. Cette américaine est complètement sourde. Igor répond, elle est peut-être sourde, mais elle paye, elle. Rétorque Diaghilev, tu penses toujours qu'à l'argent. Le 12 juin, Apollon est donné au théâtre Sarah Bernhardt sous la direction d'Igor, avec Serge Liffard dans le rôle titre. Le danseur témoigne.
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir Stravinsky au pupitre. Et alors c'était, je dois avouer, une catastrophe générale. Car Igor Stravinsky, l'homme qui, si vous voulez, symbolisait les rythmes de notre temps, il n'a pas eu aucun rythme quand il a eu la baguette devant l'orchestre. Vous comprenez, parce que, disons, battait à trois temps. Un, deux, trois. Alors vous imaginez.
Que faisaient les danseurs ?
Rien, on s'arrêtait et on a invité Diaghilev pour lui proposer de remplacer le chef d'orchestre. Alors c'était pauvre Ansermé qui remplaçait Stravinsky. Alors c'était les conflits perpétuels, malgré toute l'estime et l'adoration de ce génial compositeur.
Diaghilev dira d'Apollon Musagète, c'est une musique qui n'est pas d'ici mais de là-haut. Un rien emphatique comme formule, mais attendez d'entendre l'apothéose. Quelques années plus tard, un critique demandera au compositeur, pensiez-vous à la Grèce quand vous avez écrit Apollon? Réponse de Stravinsky, non, je pensais aux cordes. Thank you. Ricardo Chailly et l'Orchestre Royal du Concert Rebau d'Amsterdam dans l'apothéose d'Apollon Musagète d'Igor Stravinsky.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
1928 toujours, Igor signe un contrat avec Columbia pour enregistrer tous les ans, comme pianiste et comme chef, ses compositions en exclusivité. Ce qui lui donne, je cite, « la possibilité de préciser et de fixer exactement mes intentions en établissant la tradition dans laquelle mes œuvres doivent être exécutées ». Jusqu'à la fin, le souci obstiné de transmettre exactement ses pièces ne le quittera pas. Première session, le 27 juin, à Londres, il grave Petrouchka, sur lequel il reviendra quelques fois d'ailleurs. En 1929, Igor dirige pour la première fois son Sacre du printemps et doit donc en négocier les redoutables Chostrap rythmiques. Véritable épreuve. Fin février, on le retrouve à Berlin, où la version scénique d'Oedipus Rex est créée par Otto Klemperer, qu'Igor décrit en ces termes « un chef à la baguette puissante, à la nature généreuse et spontanée, et qui surtout s'attache au texte plus qu'à sa propre interprétation ». Au passage, notre homme déclare dans un entretien « franchement, je ne vois rien d'intéressant dans la musique contemporaine. Ça, c'est dit ». Alors qu'il finissait Apollon Musagète, Stravinsky a été approché par Ida Rubinstein, l'ancienne danseuse des ballets russes, qui depuis quelques années déjà mène son propre destin de mécène grâce à une fortune considérable. C'est pour elle que Ravel vient d'écrire son boléro. Elle réclame un ballet, honoraire, 7 500 $, ça ne se refuse pas. D'autant que la danseuse laisse quartier libre pour le sujet comme pour l'intrigue. Malgré la déconvenue de Mavra, Igor choisit de rendre à nouveau hommage à Tchaïkovski, mais cette fois en faisant comme lui un ballet inspiré d'un conte. Une reconnaissance de dette envers le maître qu'il aime, connaît à fond, et va citer abondamment, humoresque, nocturne, danse russe. Quant à l'argument, son choix s'arrête sur la Vierge des glaciers de Hans Christian Andersen, qu'on traduit plus volontiers « La Reine des Neiges ». Oui, oui, la même qu'inspirera en 2013 un film musical au studio Disney, libéré, délivré, tout ça, quoi. Je vous raconte pas l'histoire, du coup, hein, vous la connaissez. La première représentation du Baiser de la Fée, le 27 novembre 1928, ne rencontre qu'un succès poli. La chorégraphie de Nijinska laisse notre Igor lui-même froid comme la glace. Quant à Diaghilev, il déteste franchement ce spectacle qu'il trouve kitschissime, et il l'écrit à Serge Liffard. Je rentre du théâtre avec une migraine terrible. C'est une mauvaise suite de Tchaïkovski, larmoyante et ennuyeuse, soi-disant magistralement orchestrée. La salle, quoiqu'elle fût pleine, faisait penser à un salon où une personne respectable aurait lâché un P. On fit semblant n'avoir rien remarqué et Stravinsky fut rappelé deux fois. Son ballet est mort-né. Inutile de préciser que tout cela arrive aux oreilles d'Igor, occasionnant une nouvelle fâcherie, mais une vraie cette fois, et que les circonstances vont rendre définitive. Thank you. Un extrait du Baiser de la fée d'Igor Stravinsky, dirigé par le compositeur lui-même avec l'Orchestre symphonique de la Columbia.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Notre célèbre Igor s'est définitivement abandonné à l'amour de Dieu et à l'amour de l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Serge Diaghilev, à qui en 1929, Stravinsky ne parle plus. Au mois de février, les deux complices de 20 ans se croisent par hasard sur un quai de la gare du Nord, devant voyager dans le même train pour Londres. Ils s'adressent à peine la parole. Chacun va vers son compartiment, Igor et Vera d'un côté, Diaghilev de l'autre avec son nouveau protégé et amant, un jeune chef d'orchestre, soit dit en passant, Igor Markevitch. Ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Six mois plus tard, le 19 août, Diaghilev meurt dans une chambre du Grand Hôtel de Venise. Même s'il savait son ami sévèrement diabétique, c'est un choc pour Stravinsky. Il lui faudra quelques années pour exprimer dans un beau texte toute son admiration pour ce personnage exubérant, insupportable et génial. Juste une phrase, « Seigneur, Diaghilev l'était de la tête aux pieds et il est resté jusqu'à la mort. » Comme toujours chez Stravinsky, ce deuil ne laisse aucune trace dans son œuvre. Enfin, aucune trace immédiate et visible. Il achève un capriccio pour piano et orchestre, histoire de renouveler son répertoire de pianiste itinérant. Écriture sereine et aérée, voire facétieuse, avec une certaine rigueur formelle, et comme modèle avoué, Weber et son Concertstück. Mais le capriccio à peine refermé, Igor est sollicité par Serge Koussevitzky. Depuis 5 ans directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston, Koussevitzky veut fêter dignement le 50e anniversaire de la fondation de cet orchestre et pour cela il envisage un véritable festival de création. Roussel, Ravel, Hindemith, Honegger, Prokofiev seront de l'aventure. À Stravinsky, il réclame une symphonie, mais avec pleine liberté pour l'effectif et la forme. Rien ne devait conduire, ni à introduire un chœur, ni à aller chercher des psaumes. Mais comme Igor le dit toujours, débrouillez-vous pour vous faire commander ce que vous avez envie de faire. Or, ce que Stravinsky a alors envie de faire, c'est de mettre des psaumes en musique. Et peut-être aussi, comme jadis avec les symphonies d'instruments à vent pour Debussy, de bâtir un grand tombeau à son ami défunt, Serge Diaghilev. « Composé entre janvier et août 1930, à Nice et face au lac d'Annecy, dans un état de bouillonnement religieux et musical, comme l'écrit Igor, la symphonie de psaumes est composée à la gloire de Dieu. Et pour la première fois depuis longtemps, sans aucun modèle. Pas de néoclassicisme, pas de second degré, l'affaire est trop grave. L'orthodoxe fervent parle en direct. Alors qu'il y travaille, il déclare à un journal belge « Plus on se sépare des canons de l'église chrétienne, et plus on s'éloigne de la vérité. » Ces canons sont aussi vrais pour la composition d'un orchestre que pour la vie d'un individu. Le suicide est le plus grand péché, parce qu'il désespère de l'ordre et retourne au néant d'où Dieu nous a tirés pour et par la forme. L'absence d'ordre, le suicide, sont une protestation contre Dieu. L'œuvre est l'une de ses plus grandes et tout bonnement l'une des plus bouleversantes de tout le XXe siècle. Le Laudate Dominum qui referme la symphonie de psaumes d'Igor Stravinsky, version Andris Nelsons avec le chœur et l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
En 1931, juste après la création de la symphonie de psaumes, Stravinsky et sa famille s'installent pour 2 ans à Vorep, près de Grenoble, villa de la Véronnière, dans une maison devenue depuis médiathèque Stravinsky. Il rencontre un violoniste russo-américain, Samuel Douchkin, d'un niveau presque moyen, mais riche, ce qui pour Igor compense largement. Le musicien lui passe commande d'un concerto pour violon, auquel le compositeur se plie presque de mauvaise grâce, le genre même lui déplaît. Ça n'empêche pas de s'amuser à essayer tout ce qui est possible de faire avec un violon. Douchkin a bien du mal à assimiler cette œuvre dont les difficultés techniques ne sont pourtant pas insurmontables. Mais étonnamment, Igor va continuer à lui écrire des pièces et même à tourner avec lui pendant quelques temps. À Berlin, par exemple, il crée le 28 octobre 1932 ce duo concertant avec son énigmatique dithyrambe. L'année suivante, Ida Rubinstein sollicite André Gide pour une sorte de cantate parlée dans l'esprit de l'Hérodiade de Mallarmé. Et pour la musique, fait appel à Stravinsky. Ida voudrait sans doute être la nouvelle Diaghilev. Mais à parier les talents est en soi un talent. Les deux hommes ont beau se connaître, Stravinsky a peu d'estime pour ce qu'il appelle les normaliens de la NRF. Ils s'y mettent tout de même, échangeant par courrier sur des questions de prosodie très pointues. Mais leurs esprits ne se rencontrent pas. Gide voit dans Perséphone, enfermée aux enfers par un mari tout-puissant, une allégorie des classes laborieuses. Igor pense tenir un nouvel Oedipus Rex. Chacun sa conception.
Pauvres ombres,
La veille de la première, Stravinsky publie un manifeste où il dit avoir voulu mettre en musique des syllabes plutôt que des mots, comme pour minimiser l'apport du librettiste. Un peu vexé, déçu aussi de ce que les répétitions lui ont révélé, Gide ne se déplace même pas pour la première, mais envoie quand même un exemplaire dédicacé de la pièce à Igor. « En amicale communion », écrit-il. Ironie typiquement gidienne. La communion, c'est tout ce qui a manqué ici. Création le 30 avril 1934 à l'Opéra de Paris reçoit un accueil glacial. Stravinsky dira un jour « Le meilleur moyen d'écouter Perséphone serait de supprimer le texte de Gide. » Rendez-vous manqué. Peut-être n'avait-il pas lieu d'être. Paul Valéry, en revanche, assiste à toutes les représentations et écrit à Igor l'impression extraordinaire que lui a donné le divin détachement de Perséphone. Comme dirait l'autre, c'est le début d'une grande amitié. Le 7 juin, Igor est opéré de l'appendicite. Le 10, il reçoit la nationalité française, consécration ou juste reconnaissance. Il a fallu tout de même 10 ans de démarches administratives fastidieuses. Il s'installe à Paris, 125 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et comme il n'est jamais trop tôt pour faire le bilan, il se lance dans la rédaction des Chroniques de ma vie, une autobiographie dans laquelle il enjolive un peu, mais ce faisant se révèle aussi beaucoup. Septembre 1934, Igor passe par Venise, qu'il adore, pour diriger son capriccio avec au piano son fils Sulima, dont il veut soutenir la carrière débutante. À l'occasion, il croise Alban Berg, qu'il semble apprécier. L'année suivante, c'est une grande tournée aux États-Unis, sa deuxième, cette fois avec son compère Samuel Douchkin. Il écrit en rentrant en France les Américains, riches et cultivés, continuent à dépenser largement pour subventionner des sociétés musicales et donner de nombreux concerts. C'est un véritable culte qu'il lui voue avec l'ardeur touchante des néophytes. Justement, Lincoln Kirchstein, directeur de l'American Ballet, qui deviendra le New York City Ballet, lui a commandé une nouvelle pièce pour Balanchine, jeu de cartes. On en parlera la semaine prochaine. De retour en Europe, Stravinsky passe par Rome où il rencontre Mussolini pendant trois quarts d'heure. Les deux hommes s'apprécient beaucoup. Igor déclare au journal Il Piccolo « La voix de Rome, dans mon esprit, se confond avec la voix du Duce. Moi aussi, je dis Duce parce que je me sens fasciste. Aujourd'hui, du reste, en Europe, nous le sommes tous un peu. Votre chef est une personnalité si vaste, si forte, à même de dominer le monde. » Ça, cher maître, c'est pas ce que vous avez dit de mieux. En novembre, Stravinsky achève un concerto pour deux pianos solos, sans orchestre donc, dans l'idée de le jouer avec Sulima. Cet hiver-là, et bien qu'il déteste l'enseignement, il donne des cours de composition à deux voix avec Nadia Boulanger à l'École normale de musique. Parmi leurs étudiants, le jeune Dinu Lipati. En mars 36, au lendemain de la victoire du Front populaire espagnol, il passe par Barcelone et déclare en rentrant « Comme toujours, dans un pays où il se passe quelque chose, on ne s'aperçoit absolument de rien ». Les oiseaux par milliers chantaient sur la Rambla. Igor achève les chroniques de ma vie en notant « Le besoin de communion chez l'auteur est un idéal jamais atteint ». Constat un peu amer, ses œuvres ne rencontrent plus le même enthousiasme qu'autrefois. Il n'empêche qu'il est en France le musicien le plus respecté, pour ne pas dire le plus officiel. D'ailleurs, l'Académie lui tend les bras. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pressé par ses amis Paul Valéry et Gabriel Pierney, il présente sa candidature à l'Institut de France au fauteuil de Paul Ducas sur fond de polémiques nationalistes. Certains s'étonnent que se présente quelqu'un qui n'est français que depuis deux ans. Igor répond par voie de presse « Je ne cherche pas les honneurs et ne me suis présenté que sur l'insistance de mes amis. Le pire, c'est que c'est vrai. » Au scrutin du 25 juillet 1936, l'Institut lui préfère Florent Schmitt, son ancien ami, par 27 voix contre 5. L'heureux élu en est presque un peu honteux. Dans cette atmosphère de montée des périls, l'élection de Schmitt, fortement germanophile, n'est pas hasardeuse. Igor ne dit rien, mais la blessure d'orgueil est profonde. Le concerto sera la dernière œuvre créée à Paris. Dans son esprit, ce n'est déjà plus vers la Méditerranée qu'il faut regarder, la mer fermée, mais vers l'océan, l'Atlantique et au-delà. Thank you. Igor Stravinsky, le nocturne du concerto pour deux pianos par Katia et Marielle Labeck. Stravinsky, chronique de sa vie, une émission de Lionel Esparza préparée par Flora Sternadel, mise en page par Christine Amado, recherche Ina Haute-Vassan, à la technique aujourd'hui Pierre Henry. Je vous retrouve dimanche prochain, 11h, pour notre sixième épisode, l'Amérique.
À réécouter sur francemusique.fr.